Bonjour à tous, à la une de ce journal, une victoire bretonne en Coupe de France de football. En rouge et noir, les Rennais sont vainqueurs face au Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre. Fin donc de la malédiction du Stade Rennais, les Bretons, elles n'avaient pas gagné depuis 1971. À la une également, une fusillade dans une synagogue près de San Diego, en Californie, fait un mort et trois blessés. Donald Trump condamne cette énième attaque antisémite quelques mois seulement après la fusillade d'une synagogue de Pittsburgh. Et puis c'est aujourd'hui le temps du vote en Espagne. Le parti socialiste du Premier ministre sortant Pedro Sanchez est donné gagnant, mais l'extrême droite devrait cette fois-ci faire une entrée fracassante au Parlement espagnol.
Un mot sur les invités de la matinale. À 7h50, Patricia Martin, vous recevrez...
Samuel Adrian, il a 24 ans, il est allé de Paris à Jérusalem à pied. Il le raconte dans un livre, Le syndrome Tom Sawyer.
Rendez-vous à 7h50. À partir de 8h20, à un mois des élections européennes, question ce matin sur la place de la culture en Europe. On va en parler avec l'historien Jean-Noël Jeannenet, auteur de La République a besoin d'histoire, paru chez CNRS Éditions.
France Inter.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail.
Oui, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, organise cette journée tous les ans pour établir un bilan sur ces questions. Selon cette agence de l'ONU, 7500 personnes meurent chaque jour dans le monde en raison d'un environnement de travail dangereux. Et la France est loin d'être irréprochable sur le sujet. C'est en tout cas l'opinion de Jérôme Vivensa, en charge des questions de travail et de santé à la CGT. Écoutez.
En France, la situation est assez paradoxale. On a eu un système de santé qui était très efficace dans la réparation de dégâts. C'est-à-dire, les gens étaient abîmés et on les soignait bien. Sauf que les gens sont de plus en plus abîmés, ça devient de plus en plus compliqué de les soigner. Et cette culture de la bonne réparation a atteint ses limites. Et en fait, on n'a jamais mis en place une réelle culture de prévention. On pourrait dire, en première analyse, en voyant des chiffres, qu'on fait beaucoup de progrès depuis des décennies. Et malheureusement, une grande majorité des accidents du travail ne sont pas déclarés comme accidents du travail. Et sont simplement traités comme une maladie normale au sein de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, c'est la sécurité sociale qui paye plutôt que les employeurs. Il y a un secteur particulièrement sinistré, le bâtiment, le BTP. Il y a clairement un mort par jour en France. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à réduire. On n'arrive pas à diminuer ce mort par jour.
Jérôme Vivensa au micro de Lucas Martin Brodziki pour France Inter.
Ils l'ont fait, les Rennais ont remporté hier soir la finale de la Coupe de France de football face aux Parisiens.
Oui, tout le monde leur prédisait le pire face aux stars du PSG. Ils leur rappelaient qu'ils n'avaient plus rien gagné depuis 48 ans. Mais la malédiction est terminée pour le Stade Rennais. Au terme d'une finale de Coupe de France pleine de rebondissements, les Bretons ont terrassé les Parisiens de Neymar et Mbappé 6 tirs au but à 5, 2 partout après prolongation. Un résultat qui, pour l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, va changer le cours de l'histoire du club.
C'est le premier trophée du Stade Rennais depuis 1971. On nous en a suffisamment parlé ces dernières semaines et ces dernières années au club pour savoir qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, d'historique. J'imagine que peu de gens y croyaient, c'est logique. Toute l'armada parisienne était revenue, mais Tiki Prenez est surprenante. Le paradoxe, c'est que ce trophée arrive peut-être au moment où le moins de monde pouvait l'imaginer et l'envisager. Mais ça ressemble bien au Stade Rennais, tout ça. Donc voilà, c'est une victoire collective qui vient contenter tout un peuple, toute une région, et surtout qui va rendre maintenant très très fiers ces gens-là, et on va arrêter de leur parler de la loose, et on va leur parler de ce titre historique qui, à mon avis, va changer l'histoire du club.
Une Coupe de France qui pourrait aussi changer celle du PSG. Les prochains jours s'annoncent mouvementés. Aucun dirigeant n'a voulu hier s'exprimer après cette défaite retentissante. Les Parisiens n'ont même pas assisté à la cérémonie de remise du trophée, comme le veut la tradition. 24e samedi de manifestation des Gilets jaunes hier. 23 600 personnes étaient dans la rue, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. À Paris, ils étaient 2600. Une partie d'entre eux ont fait ce qu'ils ont appelé une marche sur les médias. Les autres ont défilé aux côtés des syndicats entre Montparnasse et la place d'Italie. Pas d'incident et une mobilisation parmi les plus basses depuis le début du mouvement. Dans le viseur des Gilets jaunes, comme dans celui des syndicats, il y a surtout le 1er mai, Sébastien Sabiran.
Pour Léo, 27 ans, gilet jaune, ce 1er mai sera forcément une date marquante dans la jeune histoire du mouvement.
Oui, je pense que ça va être important. Les gens ont quand même une symbolique de ce qu'est le 1er mai. Que ce soit les syndicats qui seront derrière, ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils seront un peu plus en retrait et qu'ils laisseront la manifestation populaire se dérouler. Je pense que c'est important que les syndicats soient derrière, c'est une très bonne base. Donc je pense que ça ne va pas se terminer.
Un nouveau pas vers cette fameuse convergence des luttes que certains appellent de leurs vœux, alors que les grands leaders syndicaux ont raté le coche des ronds-points. Alain Zamit, secrétaire CGT au Conseil général des Bouches du Rhône.
Qui aurait pu dire il y a quelques mois que les gilets jaunes seraient comme ça, que la CGT serait dans le coup aussi? Personne. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ça sera aussi un petit ruisseau le 1er mai. Et puis un jour, on va tous converger.
Mais si les combats sont en partie communs, les méthodes restent différentes, regrette Timothée Esprit, délégué CGT à l'usine Toré près de Pau.
La bataille des gilets jaunes et la bataille de la CGT doit s'incruster dans les entreprises. C'est comme ça qu'on bloque l'économie. Tout le monde aujourd'hui se targue à la CGT comme chez les gilets jaunes de mai 68. Mais c'est un mouvement qui a rassemblé 10 millions de grévistes, pas 10 millions de manifestants. C'est ce qu'il faut relancer, la machine, c'est la machine à la grève.
Un 1er mai qui s'annonce agité. Sur Facebook, la page Black Bloc France appelle à faire de Paris la capitale de l'émeute.
Reportage de Sébastien Sabiron aux États-Unis. Guillaume, c'est l'information de la nuit. Cette fusillade dans une synagogue près de San Diego en Californie. Bilan, il y a un mort et trois blessés.
Oui, la police locale a annoncé que le suspect, un jeune homme de 19 ans, originaire de la ville, a été arrêté. Donald Trump, le président américain, a condamné les mots de l'antisémitisme et de la haine qui doivent être vaincus. Fin de citation. L'attaque survient 6 mois après la fusillade dans une synagogue de Pittsburgh. Elle avait fait 11 morts et 6 blessés. C'est dès aujourd'hui que s'appliquent les sanctions américaines contre le pétrole vénézuélien. L'embargo interdit donc désormais à toute entreprise américaine d'acheter du pétrole en provenance du pays. Au Venezuela, où l'or noir représente 95% des exportations, les conséquences risquent d'être dramatiques. Mais Donald Trump espère ainsi favoriser le renversement du président Nicolas Maduro au profit de son opposant Juan Guaido. Tout cela n'entame pas en tout cas la confiance des partisans du chef de l'État vénézuélien. Ils se sont rassemblés hier à Caracas pour célébrer la sortie de leur pays de l'Organisation des États américains. C'est un reportage à Caracas de Benjamin Delisle.
Sur l'avenue Mexico, la salsa est si forte qu'aucun slogan ne se fait entendre. « Rentrez chez vous les Yankees », peut-on lire sur une pancarte brandie par Carlos, tout de rouge vêtu. Pour ce chaviste de 50 ans, l'entrée en vigueur des sanctions ne changera rien. Cela fait déjà de nombreuses années que l'on combat ce blocus qui était dissimulé et qui aujourd'hui ne l'est plus. Avec l'échec de la droite vénézuélienne, ils sont désespérés parce qu'ils voient s'éloigner la possibilité de nous voler notre pétrole et nos richesses. Les chavistes assurent que l'opposition vénézuélienne est financée par Washington et qu'elle ne mobilise plus personne. Luis, un autre manifestant. Le plus difficile pour les États-Unis, c'est la bataille de la conscience. Ils peuvent détruire notre économie, mais parce que nous sommes un peuple souverain et conscient, nous irons toujours de l'avant. Même si tous les indicateurs économiques sont au rouge, Gerardo, 42 ans, assure que le Venezuela n'a pas dit son dernier mot. Nous devons suivre la route de pays comme la Russie, la Chine ou la Turquie et sortir du joug du dollar. Car c'est par le dollar qu'on nous sanctionne, qu'on nous fait mourir de faim pour nous soumettre. Mais nous ne nous soumettrons pas. Reste que le Venezuela doit des milliards à ses alliés. Et avec la production de pétrole qui s'effondre, le pays n'aura bientôt plus grand-chose à leur offrir pour les rembourser. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
En Espagne, c'est le jour J. Les bureaux de vote ouvriront dès 9h, pardon, pour la troisième fois en 3 ans et demi. Les Espagnols se rendent aux urnes aujourd'hui. Des élections anticipées pour choisir leurs 350 députés. Le scrutin fait figure de test en fait avant les élections européennes, car l'enjeu cette fois c'est de voir le score de l'extrême droite qui part de rien mais qui devrait faire son entrée au Parlement. Aux dernières législatives, le parti Vox, nouvellement créé, avait obtenu seulement 0,2% des voix. Mais aujourd'hui, soit 3 ans plus tard, eh bien ce même parti d'extrême droite est crédité d'environ 12% des intentions de vote. Elle était princesse de Monaco, Grèce, princesse en Dior. C'est l'exposition présentée cette année par le musée Christian Dior de Granville, c'est en Normandie. Une exposition ouverte au public depuis hier et jusqu'au 17 novembre prochain. Exposition inaugurée jeudi par le prince Albert, le fils de Grace Kelly, devenu Grace de Monaco en 1956. Et pour le 90e anniversaire de la naissance de l'actrice et princesse, le musée consacre donc toute une exposition à ses robes du couturier prêtées par la principauté. Florence Müller est la commissaire générale de cette exposition.
Il n'y a pas que des tenues de soirée, il y en a beaucoup. On voit beaucoup de robes qu'elle a portées au gala de la Croix-Rouge, au bal de la Rose, mais il y a aussi toute sa garde-robe de jour. Pour le jour, on voit qu'elle a un style beaucoup plus proche, je dirais peut-être de son enfance et de sa jeunesse américaine, un peu sportswear, avec des modèles plus confortable, ou quelque chose qu'elle adorait porter, la robe chemisier. Ça, on en a un grand nom, et ça constitue tout un thème de l'exposition. C'est vraiment une très très belle histoire à raconter, parce que Grace, quand elle est jeune fille, Grace Kelly, lorsqu'elle veut trouver une robe pour la première de Fenêtre sur cour, le film qu'elle a tourné avec Hitchcock, choisit une robe Christian Dior New York, alors qu'elle est toute jeune fille, elle a 24 ans. Ce n'est pas par hasard, la maison Dior était la maison de couture la plus célèbre dans le monde. Donc c'était une garantie d'être parfaitement élégante. Et après, donc, ces liens vont se renforcer lorsqu'elle devient princesse de Monaco entre elle-même et la maison Dior.
Voilà Florence Muller au micro de Lucie Thuillet pour France Inter. Fin de ce journal, la suite du 6-9, Eric Delvaux.
C'était le journal de Guillaume Périloul.